Radio PFM et l'association TransArt vous proposent une série d'émissions réalisées dans le cadre d'un atelier radiophonique au centre pénitentiaire de Maubeuge.
Et là, ici, c'est notre petit point tranquille. C'est que les gens peuvent se relâcher puis raconter des petites histoires.
Les détenus ont produit des émissions sur des thèmes sociaux et culturels, la vie en prison, mais aussi lors de visites encadrées dans des lieux culturels de la région. Ce projet a eu lieu de 2010 à 2014 sous la responsabilité de Francine Augéré, ancienne directrice de Canal FM, radio associative maubeugeoise.
Si vous attendez dans votre cellule, vous regardez la télévision du matin au soir, vous se levez à midi pour l'ouvre-port, il n'y a rien qui avance.
Cette série d'émissions est à écouter sur PFM 99.9 du 13 janvier au 6 mars, le mercredi à 10h du matin, le jeudi à 14h et le samedi matin à 9h. Cette semaine, les Étrusques.
Mikutum Carcanas.
Mikutum Carcanas.
Mikutum Carcanas.
Mikutum Carcanas.
Mikutum Carcanas.
Mikutum Carcanas.
Mikutum Carcanas. Ou notre découverte de la civilisation étrusque.
Une émission de l'atelier radiophonique du centre pénitentiaire de Maubeuge.
Ici dans les murs, et pour sept d'entre nous hors les murs, lors de leur visite au Louvre-Lens, nous avons ouvert les yeux sur un monde inconnu.
Qu'est-ce
que ça lui a
vraiment fait en rentrant,
quoi.
Si ça va lui a touché le cœur,
c'est comme à tout détenu, je suppose que de sortir d'ici, c'est très important. Surtout, déjà on y travaille dessus, on y prépare, c'est l'atelier radio, on y prépare depuis un certain temps. Alors ça se complète. Déjà, d'une liberté, c'est quand vous arrivez à la porte que déjà vous êtes plusieurs copains, enfin plusieurs détenus qui sortaient, ça a tout de suite déjà ça
soulagement
et puis ça fait on respire tout de suite et on dirait que c'est pas la même air. Après il y a tous ces gens qui vous attendent, ça fait chaud au cœur déjà d'entrer. Et après on monte dans le bus comme des joyeux lurons, on ouvre la partie. Ça c'est la liberté déjà. Hein. Nous sommes arrivés là-bas au Louvre, à Lens. Bon, déjà en route, déjà, l'autre, oui, je reconnais mon quartier, l'autre, je reconnais les rues, l'autre, je connais la sortie de la rocade, là, je la connais bien, tout ça. On sait qu'on n'avait jamais été en prison, quoi, tu vois. C'est des fous. Qu'on se trompait de route. Après, on est arrivé bien sûr, au Louvre. On a déjà regardé que c'était beau, grand, on a tout de suite repéré, c'est que ça faisait comme un parc, il y avait des arbres autour, des chemins. Ça nous a tout de suite... Mais on se croyait qu'on arrivait sur un site industriel. Ça faisait un gros bâtiment carré, comme ils font maintenant là dans les zones, avec un parc autour, parce qu'ils font beaucoup de verdure. Pour ça, ça nous a donné la première impression. Enfin, moi, toujours, ça m'a donné ça. Je dis, tiens, on dirait un site industriel. On a commencé à traverser. C'est beau, ça fait un parcours. Ça fait comme des parcours en béton. À passer à travers la pelouse, ouais, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, enfin vous arrivez, il y a des ronds avec des trous, des galets noirs, il y a des bancs végétaux là. Et on est arrivé devant la sortie, déjà ils nous ont vu arriver, ils ont dit non, vous les groupes, vous passez de sous le côté, vous faites pas la queue. Bon, voilà, c'était bien. Bien sûr, on a été accueillis par Guinella Lapointe, très charmante, très gentille, très chaleureuse, ça nous fait plaisir de nous voir. Bon, on a fait les présentations. De là, on a remonté, on nous a offert le café. On a été à la cafette, ils nous ont payé le café, donc toujours chaleureux, toujours avec un grand soleil. Là, on a commencé à voir un peu l'intérieur parce qu'il commençait à voir les vitres encombrées à travers. D'où qu'on était, on voyait à travers le bâtiment, mais on voyait l'autre bout du bâtiment. Donc ça commençait à être un petit peu plus plaisant. Et on a fait la présentation vraiment Madame Gunil à la pointe, de Mademoiselle Juliette Guéprat, et est arrivé Monsieur Laurent Omesser, qui est commissaire, et on a fait les présentations et de notre programme de la journée qui allait commencer à se dérouler.
Je te pose une question. Alors, si on y va, par exemple, individuellement, sans renseignement, on ne peut pas la trouver. Alors, la maison, on ne peut pas la trouver, quoi.
Ah, ben si, tu peux le trouver. C'est affiché partout. Il y a des panneaux partout au musée. Et si tu arrives au musée, même comme ça, de but en blanc, tu ne sais pas que c'est un musée, tu rentres, ils vont t'indiquer. Ils te donnent déjà des... Je ne sais plus comment elle a dit. C'est des appareils que tu mets au cou avec une oreillette. Que chaque pièce que tu arrives, tu appuies avec un code et puis voilà, un audio guide.
Audio guide.
Gunilla La Pointe, médiatrice au Louvre-Lens.
Une tablette tactile, on peut s'orienter avec les visuels de la Galerie du Temps, ou on peut choisir un numéro, taper ce numéro sur le clavier et avoir un commentaire sur l'œuvre. Donc c'est une aide à la visite qui permet d'être autonome et en même temps d'avoir un petit complément d'information. C'est l'un des outils de médiation qui est proposé ici au Louvre-Lens, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'il y a aussi les médiateurs. Et les médiateurs, c'est le poste que j'occupe. Vous allez trouver 14 médiateurs au Louvre-Lens. Donc il y en a qui sont dans les salles et qui proposent au public de les conseiller, de les aider dans leur façon de regarder les œuvres. Alors ça paraît comme ça un peu pompeux, mais quand on regarde une œuvre, on peut être subjugué ou parfois on peut être totalement désarmé. Se demander mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, c'est vieux, c'est cassé, je comprends pas. Et le médiateur va vous expliquer que si vous regardez de telle façon, si vous observez tel détail, vous allez pouvoir avoir une réflexion qui vous permettra de comprendre ce que l'œuvre vous raconte. Elle va vous expliquer qui elle est, tout simplement parce qu'elle est faite dans un matériau pauvre ou dans un matériau noble. Elle va vous expliquer à quoi est-ce qu'elle a servi. Si on regarde l'œuvre, si elle est toute plate dans son dos, c'est qu'elle était posée sur le sol, allongée sur le sol. Et c'est pour ça que le dos n'est pas sculpté, par exemple, ou parce qu'elle était contre un mur. Et puis, on peut retrouver des traces de polychromie. On oublie souvent que les statues étaient toutes colorées, étaient toutes peintes, celles de l'Antiquité et celles du Moyen-Âge. Donc le médiateur va pas simplement comme un guide expliquer les origines de l'œuvre et sa fonction, mais va vous donner des astuces, des petits trucs pour que vous puissiez par la suite le faire par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'un médiateur.
On ne met jamais en difficulté le visiteur, ça c'est vraiment la règle.
Juliette Guéprat, responsable des publics au Louvre-Lens.
On essaye de l'accompagner au mieux et de le rendre autonome de façon à ce qu'il prenne d'abord du plaisir et qu'ils se reconnaissent dans les œuvres qu'ils voient. Parce que finalement, c'est quoi un musée ? C'est un endroit où on rencontre une œuvre d'art. Quand on regarde une œuvre d'art, très souvent on se regarde soi. C'est soi qu'on rencontre. C'est notre histoire qu'on rencontre, a priori. Et c'est ça qu'on veut aménager. C'est la rencontre avec soi pour grandir un peu et apprendre des choses. Et si possible, le faire en famille, entre amis. Créer des dialogues qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans le quotidien. C'est un temps très différent, le musée.
Traverser le hall pour aller dans le bâtiment que vous observez par les baies vitrées. C'est bon ? Préparez votre billet d'entrée pour le présenter aux agents de sécurité. Et puis suivez-moi, ou plutôt suivez Monsieur Omesser.
D'abord, je vous souhaite moi aussi la bienvenue dans cette exposition consacrée aux Étrusques. Je suis très content de vous faire cette présentation qui va être en fait une visite un peu synthétique.
Laurent Messer, commissaire de l'exposition.
De cette exposition qui est donc consacrée aux Étrusques, qui est une des grandes civilisations de la Méditerranée antique. Alors on va commencer par planter le décor, c'est-à-dire le lieu et le temps. Alors le lieu, on a beaucoup insisté sur les cartes justement pour qu'il y ait vraiment pour situer les choses. Donc on est, comme vous le voyez ici, au cœur de l'Italie. C'est-à-dire qu'on est dans cette zone-là, mais grosso modo, le cœur vraiment de la civilisation étrusque, c'est tout ce qui est au nord de Rome. Donc c'est actuellement les régions du Latium et surtout de la Toscane. Donc finalement, les Étrusques, c'est les anciens Toscans, c'est les anciens occupants de la Toscane entre, si vous voulez, Rome et Florence. Donc c'est une région, évidemment, qui est une région extrêmement riche du point de vue des ressources, du point de vue du climat, une région très favorable qui explique la richesse de cette culture étrusque. Ensuite, le temps, c'est vraiment tout le premier millénaire avant notre ère. C'est-à-dire que les Étrusques, ils apparaissent à peu près vers 1000 avant notre ère et ils durent pratiquement jusqu'à l'an 0, jusqu'à la fin du 1er siècle avant notre ère. Donc ça, c'est assez clair. Il y a vraiment 1000 ans à peu près d'histoire. On va voir que ça commence un peu avant et ça déborde un peu après. Mais grosso modo, dans l'exposition, on présente 1000 ans d'histoire d'une civilisation donc qui était au cœur de l'Italie, mais surtout qui a été une civilisation très importante parce qu'elle a vraiment rayonné sur la Méditerranée. Donc c'est une civilisation qui a vraiment nourri des échanges avec les autres civilisations qu'en général on connaît mieux, c'est-à-dire évidemment les Grecs. Alors les Grecs qui étaient ici, mais qui étaient aussi installés sur les côtes d'Italie, et évidemment aussi avec Rome. Et vous savez que c'est finalement les Romains qui vont conquérir l'Italie, qui vont conquérir les Étrusques à partir de 300 avant notre ère. Mais donc l'ouverture des Étrusques sur la Méditerranée, c'est vraiment essentiel parce que c'est une civilisation qui s'est nourrie d'échanges, de contacts, des importations, des exportations. Et pour montrer cette importance de la Méditerranée, on s'est concentré sur une cité, sur un site, qui est ce site de Cerveteri, qui est une des principales cités. Eh bien, chez les Étrusques, chaque cité, en fait, est son propre État, est autonome. Donc, Cerveteri, c'est une cité avec son territoire. Tarquinia, c'est une cité avec son territoire. Et chacune mène sa propre politique, à sa propre culture. Et Cerveteri, c'est vraiment une des cités les plus importantes d'Étrurie, une des cités les plus importantes de la Méditerranée antique.
Est-ce que vous avez posé toutes les questions qu'on avait préparées ici?
Oui, ça a été fait.
Comment arrive-t-on à déchiffrer l'écriture étrusque?
Ils arrivaient parce qu'il y avait des lettres grecques et ils ont fait tout un ensemble. C'est-à-dire ils savent le lire, mais ils ne savent pas l'interpréter. Hein, c'est ça que j'ai compris. Mais la plupart, ils arrivent à lire, quoi, à comprendre. C'est ce que nous a expliqué le commissaire, monsieur Laurent.
Ils ne savent pas ce que ça veut dire, quoi.
Si, mais c'est des assemblements de mots qui, ça, apparemment, ça, pour eux, ça n'a pas trop de sens. Ils comprenaient pas le sens des phrases, quoi, assemblées. Mais ils savent déchiffrer les mots. Parce que ça fait partie du grec et un peu du... Il y avait du punique et du grec. Mais la plupart étaient déchiffrés quand même.
Et, ouais, et pourquoi les Étrusques n'étaient pas conquérants?
Apparemment, ce que j'ai retenu, moi, c'était plutôt des commerçants et qui profitaient de leur richesse acquise. Alors, donc, beaucoup des fêtards vivaient leurs mains, qu'ils aimaient bien vivre, donc ils n'étaient pas guerriers, quoi. Ils se laissaient...
La coulée douce.
Voilà. C'est plutôt gens à se la couler douce, à bien vivre. Pour ça qu'ils commerçants, pour acquérir beaucoup de biens. Et eux, ils en profitaient eux-mêmes, sans se soucier de conquérir les autres pays ou préférer négocier, quoi. Négociateur, pas négociateur, plutôt commerçant, quoi.
Encore une question. Pourquoi y a-t-il un mystère étrusque?
Le commissaire a dit qu'il n'y en avait pas, hein. Il ne savait pas. Il a dit non, il n'y a pas de mystère. Pour eux, il n'y a pas de mystère, quoi. C'est un peuple qui s'est laissé conquérir par les autres pays, donc il s'est éteint comme ça en se noyant dans la masse, quoi.
Par rapport à quoi les Étrusques calculaient le temps, puisque la naissance de Jésus-Christ n'avait pas encore eu lieu?
Alors ça, ils ne calculaient pas le temps, ils ne s'en souciaient pas, apparemment. Ils calculaient en générations. C'est-à-dire génération d'une famille, quoi. C'était par siècle.
Qui a redécouvert la civilisation étrusque?
C'est des archéologues. Qui, déjà, par des poteries qu'ils ont trouvées en mer, et les tumulus. Les tumulus, c'est-à-dire les tombeaux, que ça faisait des monts de terre, Et ils ont cherché, ils se sont aperçus que ça venait d'une civilisation, ils ont fait des recherches. Ben, les archéologues.
Et, mais ils ont pas, on sait qui c'est, qui les a découverts.
Ah, c'était, oui, c'était un riche, le marquis Campanar, qui avait une collection. Ah, le Mont de Piété, qui était le Mont de Piété. Et il s'est fait, il achetait des pièces, et ça a démarré de sa collection à lui, quoi.
Est-ce que les Estrus se considéraient leurs objets étaient des objets d'art ou de vie ?
Ben, apparemment, c'était des objets du quotidien, normal. C'était pour eux, c'était un luxe qu'ils faisaient pour eux. Comme c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était des fêtards, des qu'ils aimaient bien profiter de leurs biens.
Pourquoi ils ne sont pas-ils défendus ? Parce que s'ils savaient que dans l'avenir, ils n'auraient pas avancé.
Mais de, oui, je vois pourquoi ils ne seraient pas défendus, s'ils auraient pu, s'ils savaient, ils auraient disparu. Mais ils ont préféré conclure des marchés avec les autres peuples et se réunir, quoi. Ils se sont assemblés, quoi. Ils les ont acceptés comme c'était des voisins aussi. Les pays conquérants, c'est des voisins. Et ils connaissaient, ils avaient déjà des relations avec les voisins. Ils étaient déjà, donc ils se sont laissés, pas envahir, mais ils se sont mélangés avec eux, quoi.
Mais en fin de compte, ils savaient qu'ils vont disparaître. En fin de compte, ils savaient qu'ils vont disparaître. Pourquoi ils n'ont pas réagi
Réagir, comme je disais tout à l'heure, ils n'étaient pas guéris. Et ils avaient prédit, comme ils aimaient bien les prédictions, qu'ils y croyaient. Ils avaient prédit que dans 10 siècles, ils seraient éteints, qu'ils n'existeraient plus. Alors ils ont sûrement accepté le destin.
Ouais, d'accord.
Alors on a choisi ici quelques grands vases qui datent d'environ 650-600 avant notre ère. Et le plus célèbre, le plus important, c'est ce cratère dit d'Aristonotos. Un cratère, c'est un vase qui sert à mélanger l'eau et le vin. C'est un vase de banquet. Mélanger l'eau et le vin parce que dans le monde grec et dans le monde étrusque, on ne boit pas le vin pur. Le vin pur est beaucoup trop fort, donc on est obligé de le couper d'eau. Donc aussi au début du banquet, on règle les proportions, justement pour savoir si on va boire un vin fort et puis on va tout de suite s'enivrer, ou si au contraire, on va faire un vin plus léger et on va pouvoir discuter de manière plus sobre. Donc ce vase, qui est un vase de banquet, a en plus un décor figuré, qui est un décor qui représente au dos une bataille navale, c'est le relevé que vous avez là-bas, et vous allez le voir ici, et devant une scène, qui est une scène tirée d'Homère. C'est-à-dire, on est vraiment dans un poème grec qui raconte les aventures d'Ulysse. Et c'est la scène, voilà, où Ulysse est enfermé dans la caverne du Cyclope. Et avec ses compagnons, ils vont s'échapper en enivrant le Cyclope. Et comme il va être sous, ils vont en profiter pour lui crever son œil. Et après, vous savez, il s'échappe sous le ventre des moutons, en s'accrochant sous le ventre des moutons. Et le Cyclope Polyphème est totalement impuissant. Et vous connaissez la petite histoire où Ulysse, qui est l'exemple même de l'intelligence fourbe, de la ruse, a dit au Cyclope qu'il s'appelait personne. Donc après, le Cyclope sort de sa caverne, essaye d'appeler ses copains, il dit « venez vite, mais qui c'est qui t'a fait ça ? C'est personne. » Voilà, donc résultat, ils le prennent un peu pour un fou et Ulysse a le temps de s'échapper. Mais donc là, on a une scène vers 650 qui montre que les Étrusques connaissaient les poèmes grecs, connaissaient Ulysse, connaissaient Homère. Et en plus, ce vase est signé. C'est pour ça qu'on dit que c'est le cratère d'Aristonotos, parce que sur le côté ici, vous avez une inscription qui dit « Aristonotos me poiesen », ce qui en grec veut dire « Aristonotos m'a fait ». Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que c'est un artisan grec qui est venu à Tchervéteri travailler pour les Étrusques. On voit bien que là aussi, il y a des échanges culturels, des artisans qui viennent, des images qui viennent, et donc ils ont une capacité, ces Étrusques, à développer des images. Ce qui est remarquable ici dans cette salle consacrée plutôt à la peinture, c'est le fait qu'à cette époque-là, il y a des artisans grecs qui arrivent à Tchervéteri, qui viennent justement plutôt d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et qui traversent la Méditerranée pour s'installer à Tchervéteri, pour travailler pour les Étrusques. Et ils créent en particulier deux séries d'objets. D'abord des grands vases à eau, qu'on appelle des hydries, et puis des grandes plaques en terre cuite peinte, comme ces grandes plaques campana que vous voyez là. Alors, c'est vraiment voilà, des gens qui viennent mettre leur art au service des Étrusques et qui, justement, apportent un style qui est un style oriental, un style grec oriental, avec ses sourires, avec cette élégance, et qui va profondément modifier l'art étrusque. Et ce sont des vases, bon, alors, j'insiste toujours parce que c'est vraiment parmi mes vases préférés, mais ce sont des scènes très vivantes, pleines de couleurs, pleines d'humour aussi. Regardez ce petit singe qui est qui ici, le petit lapin qui est derrière. Vous avez ici une chasse au sanglier. Si vous regardez le sanglier, vous verrez que vous avez un chien coupé en deux. La tête est en dessous du sanglier, le haut est en haut avec les tripes à l'air, parce qu'il a été découpé en deux par le sanglier. Mais il y a une vivacité comme ça et une sorte de notation dans ces images qui est assez, assez remarquable.
C'est de la vaisselle spécifiquement pour eux ou ils commercialisaient ça?
Non, c'est vraiment réalisé à Tchervéterie. On en connaît une cinquantaine d'exemplaires. D'accord. Et c'était à Tchervéterie même. Donc c'est une production de prestige, évidemment, c'est des vases de prix. Regardez, là aussi, on voit très bien, c'est une qualité de décor avec des scènes de chasse, mais c'est économiquement assez limité.
Ce qui était plus
limité.
Réservé au commerce, c'était plus les amphores. Alors.
Voilà, dans ce sens-là. C'est-à-dire ils n'exportaient pas beaucoup de céramique peinte, de céramique décorée. Ils importaient plutôt la céramique grecque. Donc là, ils ne pouvaient pas concurrencer la céramique grecque en termes d'exportation. Vous avez des grandes plaques peintes, ce qu'on appelle les plaques campana. C'était là aussi les débuts de la vraiment peinture mobile en Italie. Donc avec des grandes plaques qui servaient à décorer les murs des maisons, des temples et également des tombes. Et ça, c'est des scènes qu'on ne comprend pas tout à fait parce qu'on n'en a qu'une partie et on ne sait pas exactement ce que ça représente. Là aussi, c'est peut-être Héraclès, la deuxième plaque en partant de la droite avec le personnage qui tient un arc et des flèches. Ce serait peut-être Héraclès et le personnage derrière qui tient une femme dans les bras. Ce serait peut-être un démon de la mort qui ramène une figure des enfers. Donc on ne sait pas exactement ce que ça représente, mais très clairement, cette plaque-là et les autres plaques, ça composait des grands discours en images, des grands décors qui ornaient aussi bien les demeures, les salons des aristocrates de l'époque que les temples ou les tombes. Et donc évidemment, après cet art de la peinture lié aux artisans grecs orientaux, on arrive au clou de l'exposition qui est le sarcophage des époux. Donc le sarcophage des époux, alors déjà on ne sait pas si c'est un sarcophage ou une urne, c'est-à-dire est-ce qu'à l'origine on déposait les corps ou est-ce qu'on déposait les cendres. Il est plus vraisemblable que c'était les cendres parce que sinon ils étaient vraiment un petit peu serrés. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ça représente le couple. Donc là aussi, c'est l'image de l'homme et de la femme. Ça, c'est central dans la civilisation étrusque. L'homme et la femme enlacés. Ils sont en train de banqueter. Ils sont sur un lit précieux avec des matelas. Alors, il y avait la couleur à l'origine qui rendait ça encore plus précieux. Les coussins sur lesquels ils sont adossés, c'est appuyé, ce sont en réalité des outres. Donc, c'est l'évocation des outres à vin. Donc là aussi, c'est la consommation du vin. Et donc, il y a ces sourires, ce profil, ces yeux. Là aussi, c'est le langage grec oriental arrivé en Étrurie par ces artisans grecs.
Bon, avant de commencer, on souhaiterait tous vous remercier pour avoir pris du temps pour nous, tout ça et tout. Et la première question... Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voie professionnelle?
Oula, ça commence fort. Alors, qu'est-ce qui m'a fait choisir cette voie professionnelle? Alors, en fait, je suis pas
un homme de musée. C'est-à-dire qu'au début, j'étais enseignant. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressé à l'Antiquité. Donc, j'ai étudié l'Antiquité, l'archéologie. J'ai enseigné à l'université et ensuite je suis venu au musée du Louvre. Donc c'est déjà une sorte de bifurcation dans ma carrière. Mais ce qui m'a intéressé dans l'archéologie, c'est évidemment la fascination du passé, c'est le fait de redécouvrir ce passé-là de manière très, très concrète sur le terrain, puisque j'ai aussi fouillé. Donc c'est cette fascination, je pense que tout le monde peut comprendre, de creuser le sol à la recherche du passé, de comprendre le passé de ces gens-là, de ces cultures-là.
Et donc les étrusques là-dedans, justement, parce qu'après il y a un choix, c'est-à-dire qu'on est obligé de se spécialiser, donc certains choisissent les Grecs, d'autres les Romains, d'autres les Égyptiens. Voilà, moi j'ai choisi les étrusques parce que peut-être justement c'est plus original, il y a peut-être aussi plus de choses encore à comprendre chez les étrusques.
Puis vous vous demandez comment faire la différence entre les faux et les vrais.
Alors par définition, nous n'avons que des vrais. C'est une excellente question parce que c'est une question qui se pose beaucoup pour les Étrusques. Parce que justement au XIXe siècle, quand on a redécouvert les Étrusques, il y a eu tout un marché de l'art, et donc il y a eu aussi des imitations, il y a eu des pastiches, donc voilà, c'est des fois on a beaucoup de difficultés à comprendre ça, donc il faut vraiment comprendre d'où vient l'objet, comment il a été découvert, et c'est vrai que des fois il y a des doutes, donc il y a une habitude de regard, c'est-à-dire qu'à force de regarder des objets étrusques, on peut espérer qu'on finisse par les connaître un petit peu. Donc une fois quand on voit des choses bizarres, on se dit bon, là il y a un doute. Et puis il y a aussi la démarche, j'allais dire, plus strictement scientifique, d'analyse. Donc on fait des analyses, par exemple, quand on achète un objet, actuellement, on prend toujours le soin de faire des analyses qu'on appelle par exemple une thermoluminescence qui permet de dater l'objet. Donc là aussi, ça nous oblige à vraiment à étudier l'objet, à comprendre l'objet pour être sûr de sa qualité.
J'aurais voulu vous demander, comment fait-on pour devenir archéologue, le parcours à effectuer?
Alors, pour la formation d'un archéologue, elle est assez variée, encore une fois, parce qu'il y a maintenant des formations particulières à l'université pour devenir archéologue. Mais en général, c'est d'ailleurs assez peu fréquent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diplôme. Ça commence à exister, mais il y a longtemps, il n'y a pas eu de diplôme d'archéologue. Donc, ce qui compte avant tout, c'est... Alors, on peut devenir archéologue, comme je le disais tout à l'heure, en s'intéressant au texte, en s'intéressant à l'histoire, et puis à un moment, en voulant aller sur le terrain pour fouiller. Ce qui compte avant tout, c'est justement la pratique. Donc, je vois que beaucoup d'archéologues, en fait, c'est des gens... Déjà, c'est des passions qui viennent assez tôt. Et on voit par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adolescents qui s'intéressent à ça et qui au cours à l'école déjà, au cours des études, vont sur le terrain. Et donc je crois que la meilleure manière de devenir archéologue, c'est justement d'arriver un moment à aller sur le terrain et puis à prendre sa truelle et puis à se prendre des ampoules dans la main à force de manier la truelle. Mais c'est ça. C'est l'archéologue de terrain. L'archéologue au sens large du terme, c'est d'abord une familiarité avec les objets. C'est-à-dire, c'est aimer regarder les objets qui sont pas forcément toujours des chefs-d'œuvre. Ça peut être une cuillère, un bout d'os, etc. Mais c'est l'attention portée à l'objet, c'est la capacité ou le goût pour imaginer finalement à quoi servait cet objet et essayer de mettre une vie derrière un objet qui peut être très 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 humble, très 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 ordinaire et d'essayer de recréer. Donc c'est cette curiosité là qui fait aussi l'archéologue.
J'ai une question à vous poser. Oui. C'est comment faites-vous, c'est pour les transporter, pour les déplacer quoi?
On les fait avec infiniment de précautions. C'est-à-dire que on a vraiment, c'est tout un art. On travaille avec des entreprises spécialisées. Il y a vraiment des entreprises qui sont spécialisées dans le transport, dans la manipulation des œuvres d'art. Nous, au Louvre, par exemple, on a vraiment des personnes, on a un service qu'on appelle les installateurs, qui sont ceux qui vraiment gèrent tous les mouvements des objets. C'est-à-dire que moi, en tant que conservateur, je peux effectivement aller dans une vitrine, dans une réserve, manipuler l'objet, l'étudier, je le prends en main, etc. Il n'y a pas de banc. Mais quand il s'agit de faire des manipulations importantes d'objets, de transporter une série d'objets d'une salle à une autre, des réserves dans les salles, de sortir... Ce sont des installateurs, des personnes spécialisées qui sont vraiment, justement, qui ont cette expertise, ce savoir-faire de la manipulation d'objets fragiles, donc qui travaillent en équipe et qui ont vraiment un savoir-faire. Sur une exposition, c'est la même chose. C'est-à-dire, on travaille avec des entreprises très spécialisées qui manipulent les objets de manière très précautionneuse et qui ont surtout un savoir-faire pour faire des caisses adaptées aux objets. Donc, les objets, ils voyagent souvent dans des caisses qui sont vraiment du sur-mesure, là. Pour le coup, c'est vraiment de la haute couture pour l'objet, parce qu'on fait des caisses spéciales avec des emballages dedans, des mousses qui sont découpées autour de l'objet, recouverts de tissu pour qu'il n'y ait pas de frottement. Les objets doivent être calés, mais sans être contraints, sans être écrasés. Donc c'est vraiment un travail d'une très très haute précision. Moi, je suis incroyablement admirateur de ces personnes qui ont une intelligence des mains et de l'objet, qui savent les manipuler, ce qui évidemment n'empêche pas un certain nombre d'accidents. On a d'ailleurs eu sur l'exposition, parce que voilà, c'est des objets parfois difficiles aussi à manipuler. Mais il y a un savoir-faire tout à fait extraordinaire de ces entreprises, dont certaines d'ailleurs travaillent au Louvre depuis plus de 200 ans. Donc il y a aussi un savoir-faire qui s'est transmis au cours des siècles et des décennies.
Moi, je voulais... À l'heure actuelle ou en vie, est-ce qu'il y a des descendants du peuple étrusque ?
Oui. Enfin non, je dis oui, je m'avance un peu. On a un peu cherché ça, c'est-à-dire que les Toscans, puisque je vous dis les Étrusques, c'est vraiment la Toscane, on a souvent considéré que les Toscans étaient les descendants des Étrusques. Par exemple, à la Renaissance, c'est très clair, les princes de Florence, la famille des Médicis, collectionnaient les œuvres étrusques, aussi pour se définir comme étant les descendants des Étrusques. Donc ils revendiquaient ce passé étrusque, nous sommes les descendants des Étrusques. Ils le faisaient d'autant plus volontiers qu'il y avait aussi une rivalité par rapport à Rome, par rapport au pape, qui lui était le prince à Rome, et qui lui affirmait descendre des Romains. Donc du coup, Médicis disait, nous c'est les Étrusques, enfin, il y avait une volonté comme ça. Actuellement, il y a toujours ce passé, cette conscience chez les Italiens de Toscane, de ses origines étrusques. Et il y a même des recherches, pour ne rien vous cacher, qui essayent de retrouver dans l'ADN des gens en Toscane une spécificité. Donc on essaye de dire, est-ce qu'on arrive à identifier vraiment une spécificité génétique des Étrusques et des traces comme ça. Mais c'est un sujet extrêmement, extrêmement délicat.
Comment arrive-t-on à déchiffrer l'écriture ?
Alors, petite leçon d'Étrusque. Comment arrive-t-on à... Alors déjà, c'est une écriture, je vous l'ai dit, qui est empruntée au grec. Donc les formes des lettres, on les connaît très très bien. Il y a des mots, donc on arrive à la lire, c'est-à-dire on arrive à lire les lettres. Et à partir de là, c'est la répétition un peu des formules. Ce que je vous ai montré sur un vase, par exemple ce vase qui dit « Mi cutum carcanas », on a 36 vases. On en a des centaines de vases ou d'objets qui disent « mi » plus un nom. Donc on arrive à comprendre que « mi », ça veut dire « je suis moi ». Voilà. Et c'est en mettant comme ça, en répétition, les différentes inscriptions, qu'on finit par comprendre que ça, c'est le verbe, que ça, c'est le nom, que ça, c'est moi, que ça, c'est donné. Donc c'est plutôt en travaillant sur des séries d'inscriptions qu'on arrive à comprendre le sens de certaines formules. Mais justement, c'est ça la difficulté aussi. Dès qu'on a un texte plus long, parce qu'on a des textes très longs chez les Étrusques, là, on est un peu perdu. Parce que du coup, les phrases sont plus complexes, les mots sont moins répétitifs. Donc là, on n'a plus cette facilité pour comprendre les textes. Donc on déchiffre très bien, on lit très bien ces inscriptions brèves. On comprend les structures, on ne comprend pas toujours le vocabulaire. Et dès que c'est un texte plus long, là, il y a des discussions. Bon, je vous remercie beaucoup.
C'est nous qui vous remercions.
Vous pouvez dédicacer notre livre.
Très volontiers, mais il faut un stylo.
Cher Véterin, grande ville. La plus grande ville de la région étrusque, située à 40 km au nord de Rome. J'aime bien cette ville, son nom aussi d'ailleurs. C'est une ville côtière de la Méditerranée, très dense, de 170 000 habitants, très bien située pour le commerce, avec un port d'où rentraient et sortaient des bateaux chaque jour, plein de produits. Par contre, la proximité qu'elle avait avec Rome était une mauvaise chose, car les Romains ont fini un jour par l'englober.
J'ai aimé le mot punique,
qui est une langue que les Étrusques ont mélangée à l'alphabet grec. Donc ils en ont fait une écriture, d'ailleurs qui est sur les trois lamelles de pierre J en or. Et je souhaiterais qu'un jour qu'on déchiffre cette écriture pour savoir ce qu'il y a d'écrit sur les lamelles de pierre J.
Archéologie. Ce qui m'a intrigué, enfin qui m'intrigue, c'est le fait de rechercher des choses, comme là par exemple le peuple étrusque. Une simple découverte d'une petite pièce qu'on pourrait retrouver, à quoi que ça peut nous amener, quoi. Petite pièce, faire un assemblage, l'époque que ça a été fabriqué, par qui, comment. D'un simple petit coup de truelle, ça peut nous ramener à la redécouverte de tout un monde.
Mer Méditerranée, j'aime les vases qui circulaient dans la mer Méditerranée.
Le Bucchero, c'est un vase étrusque qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et les potiers qui vont créer à Cerveteri. Et moi, ce qui m'a attiré dans ces vases, c'est leur couleur noire luisante avec leur relief et leur finition.
Pour moi, j'ai retenu Tumulus. J'ai aimé la façon dont les Étrusques ont construit l'architecture. La beauté des dessins qui illuminaient les yeux en rentrant dans leur tombeau, quoi.
Mystère. Le mystère étrusque est résolu par les archéologues. Mais moi, je demeure sceptique. Car à ce jour, selon les renseignements que j'ai pu recevoir, le mystère de savoir s'ils sont natifs de la Toscane ou des nomades et conquérants ou voyageurs venus d'une autre région antique de la Méditerranée. Le mystère demeure pour moi et en moi. Et également leur alphabet qui demeure encore un mystère pas complètement résolu. Ainsi de savoir pourquoi que dans les Tumulus on ne trouvait pas leur squelette. Pour moi, le mystère étrusque n'est pas résolu à ce jour.
Nous, c'est que ici on ne demande pas comment vous vous appelez ou c'est votre numéro d'immatricule, votre numéro, c'est ce qui compte. On vous demande votre nom après en général, mais c'est quoi ton numéro d'écrou? Tandis que là ça fait du bien, on vous appelle monsieur comme tout le monde, il n'y a pas de priorité, puis il n'y a pas de désavantage. Tant que ça fait beau, ça fait du bien, c'est énorme. On en vient dans la vraie vie, quoi.
Que ouais, quand t'es en prison, c'est vrai, il y a un sens. Parce que juste les gens font sans te connaître. Mais carrément une étiquette, c'est vrai, ça. T'es condamné, ça veut dire que t'es un mauvais garçon. Alors voilà, on est des numéros, voilà, c'est tout.
La mission a renouvelé. Moi, j'aurais voulu des journées comme ça, c'est... On est un peu privilégié, mais moi j'aurais bien voulu rester parce qu'on n'a pas tout vu. Puis bon, il y a des gens, on a vu avec des gens, on fait des sorties culturelles avec des gens et ça nous enrichit. Parce que comme j'ai expliqué, moi j'ai été élevé dans une époque bon à des gens qui la culture ne connaissaient pas chez nous. C'était le travail, manger, dormir. Voilà. La culture on ne connaissait pas. Hein, moi avant je connaissais pas. Et maintenant, vous avez vu, je m'y connais un petit peu plus. et ça me plaît. Et il faudrait en savoir plus, quoi. Il me faudrait plus. Pour moi, c'est de connaître les vraies valeurs de la vie. C'est-à-dire comme là, les gens, comment les peuples, ils ont pu vivre.
Et grâce à ça, grâce à ces sorties-là, les gens ils voient de nous que nous, on ne veut pas changer, qu'on a changé carrément. Tu vois, c'est grâce à ça que les gens ils voient qu'on est vraiment, qu'on est venu des gens différents, quoi. C'est pas qu'on veut, mais on est déjà des gens différents, déjà. Parce qu'on fait l'exemple déjà de supprimer quelque chose qu'on n'a jamais connu.
Mais moi, humainement, ça m'a beaucoup apporté tout ça, quoi. Oui, ça m'a appris à écouter les autres. Et à écouter les autres et leur peut-être leur dire un peu ce que j'avais appris et à quoi que ça pouvait amener, quoi. Et humainement, moi, ça m'a appris à écouter les autres personnes.
C'était Mikoutoum Karkanas.
Ou notre découverte de la civilisation étrusque.
Une émission de l'atelier radiophonique du centre pénitentiaire de Maubeuge.
Avec Abdel l'Ancien,
Abdelmi Damien,
David et Eric,
Abdel le Jeune,
François et Georges,
Mohamed et Pascal,
Hassan et Jackie,
Michael l'Ancien,
Jean et Michael le Jeune.
Coordination Francine Augéré.
Bonjour à tous. Nous vous écrivons cette petite lettre, comme promis, à propos de notre sortie au Louvre-Lens. Nous étions sur un bon nuage. Nous voudrions avant tout remercier Guenilla Lapointe, Julia Guéprat, ainsi que le conférencier qui nous a accompagnés durant la matinée et nous ont apporté des réponses claires à nos questions. Et surtout les remercier du livre dédicacé offert pour le centre de détention. Nos sujets favoris ont été les parties qui concernaient les vases et les bijoux et les sarcophages de l'époque. Il y a tellement de choses que nous avons appris durant cette mémorable journée, et c'est avec des souvenirs pleins à tête que nous nous sommes endormis. Pour nous, le contact avec les gens, c'est important, et grâce à cette bonne ambiance de groupe, la journée ne pouvait que bien se passer. La visite de l'après-midi était tout aussi intéressante et profonde. Nous restons très touchés par l'accueil du musée. PS, moi David, je tire mon chapeau à Monsieur Eric et l'autre technicien qui ont tenu le micro toute la journée. Félicitations à eux et au reste du groupe de l'atelier radio. Signé David et Pascal.
Radio PFM et l'association TransArt vous proposent une série d'émissions réalisées dans le cadre d'un atelier radiophonique au centre pénitentiaire de Maubeuge.
Et là, ici, c'est notre petit point tranquille. C'est que les gens peuvent se relâcher puis raconter des petites histoires.
Les détenus ont produit des émissions sur des thèmes sociaux et culturels, la vie en prison, mais aussi lors de visites encadrées dans des lieux culturels de la région. Ce projet a eu lieu de 2010 à 2014 sous la responsabilité de Francine Augéré, ancienne directrice de Canal FM, radio associative maubeugeoise.
Si vous attendez dans votre cellule, vous regardez la télévision du matin au soir, vous se levez à midi pour le repas, il n'y a rien qui avance.
Cette série d'émissions est à écouter sur PFM 99.9 du 13 janvier au 6 mars, le mercredi à 10h du matin, le jeudi à 14h et le samedi matin à 9h.